France Culture. Les nuits de France Culture.
C'était en 1970. Près d'un an plus tôt, une mission américaine avait réussi à se poser sur la Lune pour y débarquer ses passagers. Un exploit suivi de plusieurs autres avec la poursuite du programme Apollo qui devait durer jusqu'en 1972. Dans la presse, dans les cercles intellectuels, on cherchait alors par quel terme, par quel concept qualifier ce moment historique. Car le moment était bien historique. Il modifiait en profondeur nos représentations du monde et nos imaginaires. Il y avait bien de quoi faire un grand point sur cette exploration et cette conquête spatiale, des récits ou des mythes à la réalité. C'est le programme de l'émission que vous allez entendre dans un instant, une conférence donnée par un expert atypique, un homme politique passionné de conquête spatiale, Jean Auburtin. Cet ami personnel du général de Gaulle introduisait son propos en évoquant Savinien de Cyrano, figure du monde des lettres du XVIIe siècle dont la vie inspira le personnage de Cyrano de Bergerac, avant d'évoquer Jules Verne, puis les cosmonautes modernes. Cette intervention de Jean Auburtin avait lieu dans le cadre des conférences de l'Université des Annales. Première diffusion sur France Culture le 26 juin 1970.
Cyrano de Bergerac, il est connu de la plupart d'entre nous par la comédie héroïque d'Edmond Rostand. Pour la plupart de nos contemporains, c'est le redresseur de tort, l'homme d'esprit au long nez. C'est le poète gascon, c'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. C'est Cyrano, lâchement abattu par un ennemi invisible, parce qu'il a stigmatisé la lâcheté, l'imposture, la vénalité, le mensonge, parce qu'il était, suivant le mot d'un de ses amis, le plus exquis des êtres sublunaires. Ce n'est pas, vous vous en doutez, ce Cyrano de légende, rimeur, bretteur, musicien que je voudrais évoquer devant vous. C'est le Cyrano de Bergerac qui a réellement vécu au milieu du XVIIe siècle, le physicien ou le physicien parascientifique. C'est celui-là que je voudrais essayer de ressusciter quelques instants devant vous. Et d'abord, une déception. Le Cyrano de la légende, le vrai Cyrano, n'est pas gascon. Il est né à Paris, dans le quartier des Halles, tout simplement. Pourquoi le nommer Bergerac ? Mais parce que son grand-père avait acheté dans la vallée de la Dordogne un certain sieur de Fortbois qu'il avait acquis d'un certain Bergerac. C'est là qu'il vint vivre à l'âge de 3 ans. C'est là sans doute qu'il prit goût au grand air. C'est là sans doute qu'il fut prédisposé à écrire ce voyage dans la Lune où il a montré de curieuses anticipations. Il eut une existence fort mouvementée. C'était un esprit généreux sans doute, mais retors. C'était en tout cas un mécréant. En politique, il était un libertin. C'était afin de s'exprimer qu'il a dû recourir à la fiction, car il ne pouvait pas ouvertement critiquer les institutions existantes, et que c'est ainsi qu'il a imaginé cette sorte de science anticipation que constitue le voyage dans la Lune. Il a eu pour maître, il est vrai, Gassendi, un savant. À quelque temps de là et peu avant, Moore avait écrit « La cité d'Utopie ». Campanella, qu'il avait payé d'ailleurs de plusieurs années de prison, avait écrit « Sa cité du soleil ». C'était déjà des fantaisies, des utopies peut-être anticipatrices. Voltaire devait au siècle suivant suivre, et Jules Verne, que j'évoquerai plus longuement tout à l'heure, avant d'aboutir à nos cosmonautes. Notre Cyrano se lance dans des descriptions aventureuses. C'est un récit de pure fiction au départ. Notre voyageur s'élève dans la Lune dans une ceinture de fioles pleine de poésie. Et Edmond Rostand va nous le montrer, puisque la fumée a tendance à monter en soufflant dans un globe assez pour m'emporter. Et en effet, Cyrano, le véritable, parle de ces géants de 12 coudées qui vivent de fumée. Je n'en parlerai pas si la suite, le véritable auteur de Voyage dans la Lune, si notre Cyrano de Bergerac, n'en avait pas tiré de vraiment curieuses anticipations. Il nous parle de fusées volantes, et précise même, car dès que la flamme eut dévoré le rang des fusées qu'on avait disposées 6 par 6, par le moyen d'une amorce qui bordait chaque demi-douzaine, un autre étage s'embrasait, puis un autre, en sorte que le salpêtre, prenant feu, éloignait le péril. Arrivé dans la lune, où les cailloux n'étaient ni durs ni raboteux et avaient soin de s'amollir quand on marchait dessus, on sait que nos cosmonautes américains s'étaient légèrement enfoncés dans le sol lunaire quand ils y prirent pied pour la première fois. Mais ce qui est plus étonnant peut-être, encore que ce soit peut-être une coïncidence, c'est cette fusée à triple étage qui permit à nos astronomes de s'arracher à la traction terrestre en abandonnant les charges inutiles par paliers successifs. Autre précision curieuse, le chariot dans lequel Élie, c'est-à-dire voyageurs de l'air, va dans la Lune et hissé avec une boule d'aimant lancée en l'air et ainsi le propulsait toujours plus haut. Propulsion par saccade, par alternance, c'est le principe même de l'électro-aimant, celui qui anime notre voiture automobile. Notre Cyrano a donc, semble-t-il, dans cette vision fugitive, entrevu les actions et réactions des mondes entre eux. Tous ces mondes ont encore d'autres petits mondes qui se meuvent alentour d'eux. N'est-ce pas la définition même du satellite ? Et se demandant pourquoi il n'a commencé le choir qu'après les 3/4 du chemin, il explique. Cette masse étant moindre que la nôtre, il faut que j'aie senti la force de son centre. Enfin, pour descendre dans la Lune sans heurts, il se serait blessé sans le secours de sa robe où le vent s'engouffra et le soutint jusqu'à ce qu'il ait mis pied à terre. N'est-ce pas, avant la lettre, le principe même du parachute ? Il faut attendre maintenant plus de 2 siècles, 1650-1865, pour retrouver, avec Jules Verne, un avant-goût de ce que va être le 20 juillet 1969, le voyage dans la Lune des aventuriers de l'espace. Pas plus que Cyrano de Bergerac, Jules Verne était un scientifique. Il avait fait, lui, des études juridiques. Une licence en droit pour succéder à son père, Maître Verne, avoué à Nantes. Mais, à peine âgé de 11 ans, 1839, il s'est enfui de l'école pour s'embarquer comme mousse. Rattrapé de justesse sur le trois-mâts où il pensait aller conquérir l'univers, son père le ramena à l'étude paternelle. Dégoûté des aventures, Jules Verne ne pourra plus que voyager en rêve, et c'est pourquoi il a été le prodigieux descripteur des 20 000 lieues sous les lèvres, des voyages dans la Lune et autour de la Lune. La partie scientifique, telle qu'on la connaissait à l'époque, est traitée avec une minutie qui rappelle un de ses biographes que le romancier a fait revoir ses calculs par un professionnel. Ce voyage dans la Lune d'abord et autour de la Lune, c'est un mélange d'étonnantes anticipations et de fantaisies échevelées. Et d'abord, l'origine du voyage. Au milieu du siècle dernier, un Yankee, Barbicane, président du Gun Club, du club du canon, de Baltimore, a fait fortune dans le commerce des bois. Il déplore la paix inféconde où végète alors son pays. Pour le réveiller, il propose de prendre possession de la Lune au nom des États-Unis. Mais c'est un obus à l'origine et non des hommes qu'il se propose d'y envoyer. Et de préciser que le projectile devait partir à une vitesse initiale de 12 000 yards la seconde, soit 11 kilomètres. C'est précisément la vitesse que devait acquérir Apollo 11. Cette annonce, vous vous en doutez, fit le tour des États-Unis. Il s'agissait en effet d'une véritable entreprise nationale. Du coup, 28 millions d'Américains s'enthousiasment pour ce projet. Les spécialistes ont pu, écrit Jules Verne, mesurer la hauteur des montagnes. Cet astre apparaît criblé de cratères, de nature volcanique, sans atmosphère. Quant à l'intensité de sa lumière, Verne assurait qu'elle est 300 000 fois moindre que celle du Soleil. Quant aux Yankees, écrit Jules Verne, ils n'eurent d'autre ambition que de prendre possession de ce nouveau continent désert et d'arborer à son plus haut sommet le pavillon étoilé des États-Unis d'Amérique. Et les savants du Gun Club de discuter gravement physique, astronomie, mathématiques, balistique, avec force précision mathématique. De ces cogitations, de conclure, il fallait construire un projectile en aluminium d'un poids de 19 000 livres. À 8 dollars la livre, le prix de ce projectile sera de 173 000 dollars, soit 856 000 nouveaux francs. Quant à la forme du boulet, il sera rond et tournera sur lui-même en se comportant à sa fantaisie. Après de savantes discussions, on décide de construire un canon de 900 pieds, soit environ 500 mètres. Et ce canon sera composé d'un alliage de cuivre, d'étain, de laiton. Il pèsera 80 000 tonnes. Il coûtera, toujours à 2 cents la livre, 2 510 000 dollars. Pour lancer ce projectile sur la Lune, il y faudra de la poudre à gros grains. Quelle quantité ? On en discute ardemment au Gun Club. Et le président Barbicane de tranché, 1 600 000 livres, il ne faut pas lésiner. C'était faire bonne mesure. Mais comme cette quantité de poudre donnerait naissance à 6 milliards de livres de gaz, il la faut réduire. Comment ? Au moyen de fulmicoton. Le fulmicoton, c'est le kérosène de notre époque. Le plan était prêt. Il n'assigeait plus que de l'exécuter. Mais un sceptique, le sieur Nicole, propose, nous sommes en Amérique, une série de paris assortis de nombreux milliers de dollars, bien sûr, pour soutenir, primo, que jamais les sommes requises ne seraient réunies, que le projectile ne partirait pas et que le boulet retomberait à peine lancé. Où donc serait installé le gigantesque canon qu'on prénomme « Columbiade » ? On cherche les diverses régions d'Amérique, puis on s'arrête à deux, Texas ou Floride. Le président Barbicane, toujours chargé de trancher, opta finalement pour Tampa Town en Floride. Pourquoi ? Tampa Town, tout proche de Cap Kennedy, d'où s'élança Apollo 11. Restait le financement de l'entreprise. Il y faut une souscription internationale. À peine lancées, les souscriptions affluent. Ainsi furent réunis, nous dit Jules Verne, 4 millions de dollars pour l'Amérique et 1,5 million de souscriptions étrangères. En 8 mois, les travaux furent menés à bien. Le gigantesque canon dûment enfoui sous terre, les membres du Gun Club s'y réunirent pour boire à la Lune. Des habitants de l'Amérique entière y accourent et la ville s'appela Moon City, la cité de la Lune. Vous voyez que la poésie n'était pas absente de ses anticipations. On était, en octobre, à 2 mois du départ de l'engin pour la Lune, lorsque, subitement, un télégramme arrive de Paris, ainsi libellé. Remplacez sphère sphérique par projectile cylindro-conique, partirez dedans. Arriverez par steamer Atlanta, signé Michel Ardan. Quelques jours plus tard, en effet, débarque de l'Atlantais ce Français quelque peu farfelu de 42 ans, Michel Ardan, accueilli comme il se doit par le président Barbicane lui-même, qui lui demande à toute go s'il avait bien réfléchi à son projet. Et la réponse fut immédiate, réfléchi, ai-je du temps à perdre ? Et sans désemparer, notre compatriote de proposer à Barbicane, son nouvel ami, car on fait tout de suite connaissance, de convoquer toute la Floride, sinon toute l'Amérique, afin de tenir une conférence de presse, afin de répondre aux objections qui pourraient se faire dire. Aussitôt dit, aussitôt fait. À ses quelques 300 000 auditeurs, Michel Ardan affirme que seuls des esprits bornés continuent de croire que jamais l'homme ne saurait s'élever dans les espaces planétaires. Or, moi, Michel Ardan, affirme-t-il, je dis qu'on va aller à la Lune, qu'on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme aujourd'hui, on va de Liverpool à New York. et déjà les précisions s'accumulent. Pour parcourir un trajet de 422 000 km, il faut 97 heures. Et comme un interrupteur lui demande si la Lune est habituée, il répond tout à tract « Je n'en sais rien, c'est pourquoi j'y vais voir ». Mais comme l'auditoire se montre sceptique, notre pionnier d'expliquer que le seul problème, qui était le problème et qui demeure le problème d'aujourd'hui, c'était le contre-coup du départ. Aussi en amortira-t-il le choc avec de l'eau qui fera ressort. Quant à l'air, il en fabriquera par des procédés chimiques. Puis d'enchaîner que sur la Lune, la chute sera 6 fois moindre qu'une chute sur la Terre, puisque la pesanteur y est 6 fois moindre, règle scientifique déjà démontrée à l'époque et qui est toujours vraie aujourd'hui. Enfin, quand on s'interroge sur le point de savoir comment, après être allé sur la Lune, on en reviendra, il répond « Je n'en reviendrai pas », ce qui est au moins péremptoire, car c'était dès lors une opération suicide. Avant de partir, néanmoins, on tente une expérience préparatoire en lançant dans l'espace, dans un boulet, un chat et un écureuil. L'obus retombe à la mer, on l'ouvrit. Le chat était bien vivant, mais plus d'écureuil, car le chat l'avait dévoré. Maintenant, les derniers préparatifs s'achèvent. Un télescope monstre, qui a coûté 400 000 dollars, on chiffre toujours le coût d'une opération, a permis de déterminer la nature volcanique de la Lune. Le projectile, dûment agencé, la masse énorme de fulmicoton amenée précautionneusement à pied d'œuvre, il s'agit de s'installer pour le long voyage. Que fallait-il emporter ? Notre bouillant compatriote veut emporter des conserves de viande et de légumes réduits de volume sous l'action d'une presse hydraulique. Et il veut également emporter de l'eau de vie, car de l'eau, on en trouvera, malgré ce qu'on en pensait à l'époque, on en trouverait sur la Lune. Il voulait également entasser toutes sortes d'animaux, à quoi notre Américain pratique de répondre « Mais notre but, ce n'est pas l'arche de Noé ». Aussi se contenta-t-on d'emmener une jeune chienne et un terre-neuve prénommé Satellite. Le 1er décembre, c'est le départ. Plus de 5 millions de Yankees sont accourus à Tampa Town. L'ingénieur Murchison lance l'étincelle électrique, une détonation formidable retentit, suivie d'une gerbe de feu. La terre se soulève. Le projectile fend victorieusement l'air au milieu des vapeurs. Un ouragan se déchaîne sur l'Atlantique à plus de 100 000 des rivages, des navires sombres. Alors commence l'attente anxieuse. Le 12 décembre, 12 jours plus tard, le gigantesque réflecteur de Long's Peak rédigeait une note un peu désabusée. Le projectile n'est pas arrivé à son but. Il n'a pas atteint la Lune, mais entraîné suivant une orbite elliptique, il est devenu un véritable satellite. Et si l'attraction de la Lune ne finit pas par l'emporter, il gravitera autour de l'astre des nuits jusqu'à la fin des siècles. Cependant, comment se comportent dans leur boulet nos 3 navigateurs ? Projetés au départ contre les parois de leur engin, ils étaient quelque peu grogués, meurtris. Seul un des chiens avait la tête fracassée. Rétabli de l'émotion du départ, nos voyageurs se livrent à de savants calculs et à de réflexions profondes. Pourquoi n'ont-ils pas entendu la détonation du départ ? Seraient-ils restés sur place ? Mais non. Par le hublot, ils voient défiler le firmament, puis un astéroïde qui les frôle. Ah ! Ils l'ont échappé belle. Tout à coup, Barbicane, le penseur du trio, se frappe le front. Si nous n'avons pas entendu la détonation, mais c'est parce que notre projectile allait plus vite que le son. Mais ces explications savantes creusent l'appétit de nos voyageurs. L'ingénieux Michel Ardan va être à pied d'œuvre et il se met à servir à ses compagnons des tasses de bouillon liébique, précise-t-on, est-ce de la publicité, et des tranches de beefsteak saignant comprimé par la presse hydraulique. Et comme le système d'aération fonctionnait parfaitement, nos navigateurs purent se livrer à des calculs algébriques. Horreur ! Barbicane, au cours d'un de ses calculs, se rend compte qu'il a oublié de tenir compte du frottement de l'atmosphère qui freinait la vitesse de l'engin. Au lieu de partir à 12 milliards à la seconde, 11 km, c'est à la vitesse de 16 km qu'il aurait dû s'arracher. C'était donc le retour à la Terre, mais ils ne retombèrent point. Cependant, une nouvelle péripétie interne va les occuper. Le chien satellite, victime de l'opération, meurt de ses blessures. Comment s'en débarrasser? Eh bien, en le lançant dans l'espace, au travers du hublot entrouvert un instant. Cet incident réglé, nos voyageurs reviennent à leur discussion. Mais à l'extérieur, ils remarquent un nouvel astéroïde qui les suit. C'est notre infortuné satellite, le bien-nommé, devenu à son tour satellite de l'engin. Mais après tout, qu'allait-on faire sur la Lune? D'abord en prendre possession, bien entendu. Puis y constituer, pourquoi pas, une république à trois. Et c'est au beau milieu de la discussion que nos voyageurs s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils flottent dans l'air. Un objet tombé d'une table ne remonte pas. Cette constatation ne les empêche pas d'étudier pour autant la carte de la Lune sur laquelle ils pensent aborder. Mer de la tranquillité ou mer du nectar, ils découvrirent ainsi de vastes plaines et des montagnes. « Rien d'un monde vivant », écrit Jules Verne. La température extérieure, qui, vue sur un thermomètre placé hors leur wagon, marquait moins 140 degrés. Nos voyageurs, parvenus à un point mort, se décident à utiliser les fusées. Ils allaient donc retomber sur la Terre. Mais à quelle vitesse? À 16 km seconde? Nous sommes perdus, s'écrie-t-il. Heureusement, il n'en était à rien. Et le 11 décembre, 10 jours après le départ du wagon obus à Tamba Town, on est sans nouvelles de nos voyageurs lunaires. Puis tout à coup, sur l'océan Pacifique, deux savants américains observant de l'énorme télescope le disque lunaire reçoivent du commandant d'une corvette un télégramme annonçant la chute du boulet. Où donc? Dans le Pacifique. Et aussitôt, à toute vapeur, il s'agit de gagner l'endroit où l'obus était abîmé, à 2 lieues sous l'océan. Et c'est la mobilisation générale pour organiser le sauvetage et délivrer les captifs enfermés dans leur boulet, peut-être dans leur boulet cercueil. Encore une fois, les vitesses prévues par Jules Verne, si elles avaient été réalisables à l'époque, auraient pulvérisé les cosmonautes. Cette tentative, si elle n'est pas le résultat d'un pari insensé, elle est tout de même le résultat calculé ô combien, non d'un pari, mais d'un défi. C'est en effet le président Kennedy qui, le 25 mai 1961, a déclaré qu'avant 1970, un Américain se poserait sur la Lune. Ce succès, vous le pensez bien, ne résulte ni de la fantaisie, ni du hasard. S'il est le résultat d'un défi, il est plus encore la réussite méritée et méritoire d'un patient effort concerté, la mise en œuvre d'un ensemble de conditions que pouvaient réunir les Américains, le seul peuple capable de mener à bien une telle entreprise, ainsi s'exprimait Jules Verne en 1865. C'est encore une anticipation assez frappante, n'est-il pas vrai? Pour fouler devant des millions de téléspectateurs le sol de la Lune, le 20 juillet 1969, pendant quelques minutes et 32 heures en novembre dernier, il a fallu une somme de travaux, d'études, d'expériences faites avec une minutie, une précision, une patience véritablement incroyable. Toutes les expériences répétées des dizaines de fois ont été mises en place par les meilleurs techniciens. Sans dosage, ni barrière, ni interdit d'aucune sorte, tout a été mis en œuvre. On a fait appel au concours de tous. Il n'y avait aucune frontière entre les États-Unis et jamais le terme ne fut ainsi mieux justifié. C'est qu'il s'agissait d'une coopération totale. Il y fallait, bien entendu, des moyens financiers quasi illimités. Le budget de la NASA, pourtant, a été considérablement augmenté au cours des dernières années. Mais la base fondamentale de ce succès, et c'est surtout peut-être le drainage des cerveaux, le brain drain qui fut pratiqué par les Américains. De 1961 à 1966, en 5 ans, 72 000 Européens, tant travailleurs intellectuels que techniciens, ont travaillé en Amérique. 100 000 chercheurs, médecins, techniciens, ingénieurs travaillent en Amérique sans y avoir été formés. Depuis la seule année 1949, 24, le quart des membres de l'Académie des sciences viennent de l'étranger. Aussi bien, l'Amérique consacre le quart de son produit national brut à la distribution des connaissances. Le nombre d'étudiants va croissant. Mobilisation des hommes, certes, mais surtout mobilisation et mobilisation rationnelle du cerveau humain. Comment pouvait-il en être autrement ? Il s'agissait d'une véritable mission dans le sens religieux qu'il faut donner à ce mot, puisque cette formidable entreprise engageait non seulement la vie de trois astronautes, mais, comme le déclarait Thomas Paine, le prestige du pays. Cet effort gigantesque, il a commencé lorsque, avec Galilée, on construisit une lunette dont le grossissement devait être 8 à 12 fois, avec Helvétius, le savant allemand, avec Herschel, qui, grâce au télescope, décrit des paysages lunaires comme s'il les avait vus. Mais toutes ces observations, si intéressantes soient-elles, ne constituent que des approches du problème. Ce n'est que le 4 octobre 1957 que le monde est entré dans l'ère spatiale, car c'est ce moment-là, c'est ce jour où le monde sceptique a appris que l'Union soviétique vient de lancer le premier satellite artificiel. C'est le fameux Spoutnik 1 qui pèse 80 kilos. Poids énorme à l'époque. Surprise générale. Placé sur orbite terrestre, le Spoutnik, au bout de 7 minutes, a commencé sa ronde autour de la Terre. Un mois plus tard, c'est le lancement de Spoutnik 2. En 58, c'est Spoutnik 3 qui se lance dans l'espace en emportant cette fois-ci plus d'une tonne. Encore un an, 1959, Luna 2 fonce vers la Lune avec une précision automatique, elle atteint la mer des pluies. Encore deux années. 1961, un soviétique, Yuri Gagarin, est le premier passager de l'espace. Cependant, les Américains ne restent pas inactifs. Et après plusieurs essais à vide, John Glenn, le premier voyageur de l'espace, volera pendant 6 heures le 20 février 62. 3 ans plus tard, c'est un nouvel exploit. Il fait un pas de plus, si j'ose dire, mais un pas de géant ou de cosmonaute à travers le cosmos à la fin de 1965. L'année 66 verra les concurrents pacifiques américains et soviétiques réussir un alunissage en douceur. 1967, c'est le drame. 3 astronomes américains brûlés vifs dans leur cabine à terre. C'est enfin le 20 juillet 1969, la communication d'Armstrong. Ici, base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. Armstrong, Aldrin et Collins, la première marche sur la Lune des cosmonautes américains suivis en novembre d'une deuxième expédition. Bientôt, on parlera de vol de routine. De cette aventure extraterrestre, quels renseignements tirer, quelles conclusions? Les uns éprouveront un sentiment d'exaltation. Vous serez comme des dieux. L'homme a conquis non seulement l'univers terrestre, mais l'univers extraterrestre. Il est devenu, suivant la formule de Claude Bernard, le contremaître de la création. C'est le délire optimiste. À l'extrême opposé, des voix discordantes pourtant s'élèvent. Comment ne pas penser aux horizons fantastiques qui s'ouvriraient si ces énergies, ces intelligences étaient consacrées non à la vaine exploration de l'espace, mais à la transformation de la Terre afin de la rendre habitable pour tous. En réalité, nous voici en face d'une nouvelle aliénation, l'aliénation spatiale. L'espace serait-il le nouvel opium du peuple ? Qui s'exprime ainsi ? Un théologien, le père Girardi, professeur à Rome. Le problème est en effet plus complexe. Et d'abord, l'exploration de la Lune a permis de passionnantes constatations. Du sol lunaire, son âge, 4 milliards d'années, qui est contemporain sans doute de celui de la Terre, l'analyse de la structure du sol, puis les retombées technologiques. Puis, un scientifique, Pierre Aigrin, écrit qu'on découvre le pyrocénane pour couvrir des radiomes de fumée et bientôt on s'en sert pour des plats qui vont au four. Il n'y a pas de découverte si fondamentale qui puisse aboutir à l'amélioration de notre pauvre sort quotidien. Sur le plan biologique, l'aventure aussi aura eu des résultats. Le docteur Violette, médecin spécialiste français, l'écrit « La recherche a bien mérité l'humanité pour le mieux être, le mieux vivre, le mieux guérir ». Et pour concrétiser cette déclaration, c'est en inspirant des techniques de la NASA que des électriciens français ont mis récemment au point un procédé de secours à longue distance pour les cardiaques. Vous voyez où peut mener une recherche désintéressée en apparence vaine. Mais la justification suprême de l'aventure, c'est qu'elle est inéluctable. C'est que l'homme scrute, interroge, déduit, invente, va toujours plus avant et que chaque connaissance nouvelle est le point de départ de recherches scientifiques plus complexes qui lui permettront d'aller plus loin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 juin 1970.